Alors bonjour à tous, voici en direct dans les studios de Pokémon Radio Show. Alors exceptionnellement, je suis la seule présentatrice cette fois-ci de Pokémon Radio Show. Timothée est absent, donc ce sera Natachou, la community manager de la fanpage de Pokémon Radio Show, qui sera la présentatrice principale de ce Pokémon Radio Show. Et je serai en compagnie de l'équipe habituelle de Pokébip, Walker.
Bonsoir.
Péribri.
Salut à tous.
Dragi.
Salut tout le monde.
Moligru.
Salut.
Et sans oublier Tirt.
Voilà, en fait, j'hésite à faire une blague ou pas pour t'aider, Natachouille. Donc, je vais faire simple. Salut, Tirt.
Ok. Pour commencer ce Pokémon Radio Show numéro 6, on va commencer par la grande news.
Qui est la sortie japonaise de Pokémon White and Black 2 avec plein de nouvelles informations. Donc pour parler de ce sujet extrêmement excitant et génial, je laisse la parole à Bribri.
Bien, mais d'abord nous allons commencer avec les news. Et bien entendu, Pokémon Black and White 2 ne sont pas le seul sujet principal des news. Donc on va commencer avec la distribution de Victini sur Pokémon Noir et Blanc, distribution qui se fera jusqu'au 30 juin, donc dépêchez-vous. Ensuite, on va parler des nouveautés sur Pokémon Black and White 2, bien entendu. La Face Mission, où vous aurez des missions à faire, vous serez jusqu'à 100 personnes, vous pourrez faire vos missions. Ainsi que de la Join Avenue, où vous pourriez vendre certains objets en sans fil avec des joueurs. Donc ça, on n'a pas encore trop de détails là-dessus, ça viendra plus tard. On parle également de la sortie de Pokémon 14, donc Victini et Reshiram, ou Victini et Zekrom, dans un double DVD ou double Blu-ray, avec une carte Pikachu offerte en plus.
Waouh. C'est pour ça que Victini est en distribution pour le film.
Oui, c'est sûrement pour le film. Ils n'ont pas précisé pourquoi Victini était distribué, mais c'est le même mois qu'à la sortie du film, donc on pense que c'est à cause du film. Ensuite, on va parler de la nouvelle forme de Keldeo, la forme résolution, qui a été révélée dans le Korokoro de ce mois. Donc une corne un peu plus grosse, des espèces de plumes qui sont sur sa tête, une crinière un peu plus longue. Bref, il a un petit peu été customisé. Dans le film, il changerait de forme en criant, donc là on n'a pas vraiment de détails. Ça viendra plus tard.
Je trouve qu'il ressemble à My Little Pony, la nouvelle forme de Keldeo.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Enfin, en même temps, Keldeo est un poney de base, donc...
Ouais,
moi je trouve que ça le rend plus viril.
Disons qu'il est plus... Il est plus sûr de soi, en tout cas.
Ça le rend plus fier.
Plus fier,
grâce
plus
à sa corne.
Lui, ouais.
Ce qui veut dire que quand on a une corne, on est plus viril, c'est ça.
On fera pas de commentaires sur sa corne, je crois.
Ouais, surtout que sa corne, en fait, dans la trame du scénario, elle est cassée au début. Donc elle est toute petite.
Ok. Ouais,
sa corne est cassée.
D'accord.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'image du Pokémon Smash avec les enfants qui ont une corne et qui... oh là là.
Bon, ça va, on okay. veut pas de détails.
Et Pokémon Smash, un gros traumatisme pour ceux qui font des directs.
15 ans de thérapie.
Alors, on va parler ensuite de Genesect qui risque d'être bientôt officialisé au Japon, donc révélé au public, hein, car là, pour l'instant, on ne connaît quasiment rien sur ce Pokémon, mis à part qu'il a plusieurs, en guillemets, formes, c'est-à-dire qu'il a des petits changements de couleur. C'est en effet un scan, une publicité pour un guide officiel Noir et Blanc 2 qui le mentionnait. Il l'officialise pas exactement, en fait, ils disent que il y aura des détails sur les 649 Pokémon. Or, à ce jour, les Japonais qui ne regardent pas sur Internet et qui connaissent pas tous les Pokémon savent qu'il n'y a que 648 Pokémon. Donc on peut espérer qu'il y aura Genesect qui sera bientôt officialisé. Ensuite,
je pense qu'il aura une forme soucoupe volante. Ou tant, je sais pas quoi.
Oh non, franchement, faut arrêter.
Soucoupe volante.
Bah ouais,
pourquoi
regarde. Bah la tronche qu'il a déjà, il a une espèce de carapace et un canon sur la tête. Ça se trouve, il se replie sur lui-même avec les pattes sur le côté.
C'est un Gundam, en fait, Genesect.
Ouais.
Ensuite, on va passer à de l'actu Noir et Blanc 2. Donc, deux distributions pour le 6 tiers. Une pour Noir et Blanc 1 avec un fond de Keldeo dans sa forme normale. Et une pour Noir et Blanc 2 avec un fond de Keldeo dans sa forme résolution. Qui est un petit peu plus classe que le fond pour Noir et Blanc 1, d'après moi. On parle aussi d'Inesia, donc la championne de l'arène de Méonville, qui a, pour le coup, un nouvel artwork, qui est... spécial.
Qu'est-ce que t'as parlé? Elle est sympa, moi je trouve, moi j'aime bien hein, son nouveau look là, avec sa grosse doudoune et tout.
C'est du what ou what?
Ouais, moi j'arrive pas à m'y faire, je préfère l'ancien.
Donc Bribri aime les blondes, ça c'est noté.
Moi non, je préfère les brunes.
J'ai dit que je préférais l'ancien, c'est pas pareil. On peut noter aussi que dans Noir et Blanc 2, on pourra faire des échanges dès que nous obtiendrons le Stygia avec Noir et Blanc 1, et qu'il y aura également le Pokéfret. Niveau exclusivité par version, donc ça c'est Magby et Lockpin seront dans Pokémon Noir 2, tandis que Elekid et Delcati dans Blanc 2, avec une autre liste que je vous renvoie sur Pokébip pour pour savoir la liste en entière, je l'ai pas sous les yeux. La ville noire ainsi qu'une caverne avec de l'eau seront dans Pokémon Black 2, tandis que la forêt blanche et une caverne avec du magma cette fois seront dans Pokémon White 2. Et il y aura quelques exclusivités au niveau des missions pour la Face Mission et pour les objets dans le Join Avenue. Le Vokit, quant à lui, il obtient deux nouveaux jeux, donc des mini-jeux à faire quand on est en train de parler avec la webcam sur le Vokit en online. Et une grande nouveauté aussi que moi j'attends avec impatience, c'est celle des succès dans Noir et Blanc 2. Plus de 200 succès à déverrouiller. Ouais, des petites médailles à déverrouiller quand tu fais quelques petites tâches, par exemple
un truc tout con, Xbox,
attraper un Pokémon, etc. Exactement. Et là, il y en a 200.
Donc, Pokémon Noir de Blanc 2, c'est le nouveau World of Warcraft avec tous les hauts faits à réaliser.
Non, c'est des succès beaucoup plus simples, dans le style regarder dans une poubelle, attraper un Pokémon, etc. etc. Je pense pas que ça soit des trucs aussi longs que World of Warcraft.
Et c'est pas en discutant avec un gros monsieur à lunettes en costume blanc.
Dans les centres Pokémon, non?
Oui,
non,
c'est exactement. Pas lui. Oui, c'est ça, ils donnent tes médailles en fait.
Ah, d'accord.
Ah, donc en plus, faut aller les chercher.
Bah oui, elles apparaissent pas comme ça dans ton machin. C'est un peu. C'est, faut être logique un petit peu quand même.
Oui, bon, c'est logique. Pour une fois, il y a un truc de gameplay qui est logique.
Voilà. Donc pour continuer, on peut aussi parler de la sortie de Pokémon Conquest aux États-Unis le 18 juin dernier. La réouverture du Pokémon Global Link dont Draghi nous parlera plus tard.
Ah oui, ne me souffle pas mes infos comme la dernière fois, hein.
Et on va terminer sur l'annonce d'une 3DS XL dont Walker nous parlera plus tard aussi. La poule studio.
En fait, Bribri fait le rôle de tout le monde PSR.
Mais Bribri, c'est le meilleur.
Je ne dirais pas mieux.
Alors, toi Walker.
Ouais, je prends la suite pour faire une petite parenthèse, enfin une petite, que dis-je, une grosse parenthèse sur une grosse console à venir. J'ai nommé la 3DS dans sa version XL. Exactement. Donc la 3DS XL, ben, ceux qui ont une 3DS, c'est la même, mais en beaucoup plus gros. Donc le but de Nintendo, ben, je pense que c'est comme pour la DS XL, c'est-à-dire taper chez les petits vieux et chez les très jeunes en proposant un produit avec un écran beaucoup plus grand. Et pourquoi pas concurrencer les smartphones, mais moi j'en doute beaucoup.
Et comme on le dit, plus c'est gros, mieux c'est.
Par exemple, la DSiT, elle est pas très grande, mais tu as un slot pour les jeux Game Boy Advance. Ça, c'est chouette.
Pas la DSi, justement.
La DS Lite, j'ai dit.
Ah.
DS Lite.
Alors que sur les DS XL et compagnie, c'est tout pixelisé parce que l'écran est trop grand. Donc, plus grand, c'est pas forcément mieux.
Je crois que ce sera le même problème pour cette console. Déjà, le design, je la trouve pas terrible. Je sais pas.
Non plus, elle me revient pas du tout. Mais... Je pense qu'il y aura un gros problème de graphisme parce que la console, la taille de l'écran va changer, mais la résolution, je pense pas qu'elle va changer. Je veux dire, les jeux sont programmés avec une résolution qui est de temps par temps. Je sais pas quelle est de combien, j'en rappelle plus. Mais en augmentant de 90% l'écran, ça fait deux fois plus. C'est-à-dire qu'un pixel, il en vaudra 4, quoi. Donc.
Tout à fait d'accord. Ça va se faire moche. Je sais même pas si la 3D va être bien sur cette console.
La 3D, je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire. On a déjà vu de la 3D sur des écrans beaucoup plus grands. On peut penser au cinéma.
Oui, mais il faut une lunette spéciale. Alors que là, non.
Ouais, c'est vrai qu'il faut des lunettes. La technologie est différente. Ouais, on peut se poser des questions. Mais bon, je pense qu'ils maîtrisent leur petit bijou. Hein.
Je sais pas, dans tous les cas, je trouve que la 3DS, elle me donne mal à la tête et envie de vomir. La version 3D, je veux dire, jouer en 3D. Je trouve pas ça très confortable, en fait.
Ça dépend des gens. Il y en a certains qui arrivent à bien encaisser la 3D pendant des heures. Par exemple, j'arrive à y jouer assez longtemps. Enfin, ça dépend des jeux. Il y en a certains qui donnent mal aux yeux. Et d'autres, non. Donc ça dépend. Mais après, sur un écran plus grand, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire si c'est plus confortable ou pas pour les yeux. Qui est Raji, qui va nous parler un peu de comment est traitée l'actualité de Pokémon Black and White 2 sur Pokébip à travers du super dossier de Black and White 2.
Oui, ça fait 3 jours que toute l'équipe est sur la brèche. On a tous quitté nos occupations. On a confié les enfants aux mamies. Ce sont les maris qui font la cuisine, les mamans qui font tout le reste. Et
ça sent le vécu.
Donc toute l'équipe s'est réunie et vous a concocté un super dossier avec une super soluce, la plus détaillée possible. On a passé beaucoup de temps là-dessus, mais je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Hein, on a vraiment assuré là-dessus. Ça n'est pas fini. La partie 4 vient d'être mise en ligne. Je l'ai mise en ligne il y a quelques minutes, là. Et je pense qu'on va pouvoir continuer rapidement et à avancer dans le jeu et à vous proposer donc une solution digne de ce nom. Alors, bien entendu, ceux qui ne veulent pas connaître le déroulement du scénario, n'allez pas voir sur les pages de Pokébip, hein, je vous le déconseille. Par contre, pour les petits curieux, allez faire un tour, ne serait-ce que pour voir les screens qu'on a fait, ça vaut le coup quand même.
Ouais, graphiquement, le jeu est pas mal.
Faut préciser aussi qu'on tourne cette émission, ça fait un jour, deux jours que le jeu est sorti, quoi, attention.
Oui, ça veut dire que depuis la sortie du jeu, on travaille quasiment non-stop, j'ose pas dire jour et nuit, mais presque, sur la Solus. Et on a fait un joli travail d'équipe, tout le monde a mis la main à la pâte, et je trouve que vraiment l'équipe de rédaction a été ressoudée par ce travail-là. Moi, je suis très fière de l'équipe et je les remercie pour tout le temps qu'ils ont passé, toute l'énergie qu'ils ont donnée pour cette solution.
Et va rien si tu n'avais pas réussi à tous nous coordonner.
Ah ben oui, mais enfin bon, voilà. Non mais voilà, je... Ouais, un gros merci à tout le monde.
Ben merci à toi aussi.
Vous me faites rougir, donc je passe rapidement au Pokémon Global Link, à moins que quelqu'un ait autre chose à dire sur le dossier.
Non, je pense que pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire, on va garder les impressions pour après. Je pense que tu peux parler du Global Link 2.
Ouais, alors je sais pas trop si on peut l'appeler Global Link 2. Pour moi, c'est simplement une mise à jour de l'interface parce qu'il n'y a pas réellement de grosses nouveautés dedans. Hein. Le site Pokémon Global Link a fait peau neuve avec donc une nouvelle interface, beaucoup plus fonctionnelle que la précédente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait aller chercher les offres, il fallait faire pas mal de manips pour aller vérifier les offres. Quand on voulait changer de version, hein, moi j'ai les deux versions, il y avait 3 ou 4 pages à ouvrir avant de pouvoir changer la version. Ben, tout ça c'est terminé, il y a des onglets directement accessibles sur l'interface qui permettent de changer de version, d'aller voir les offres. Bon, c'est beaucoup plus maniable, plus fonctionnel, plus pratique. Moi je préfère de loin cette nouvelle mise à jour. Alors à côté de ça, ils ont aussi ajouté un catalogue dans le Dream World. Quand vous allez dans votre maison, vous avez maintenant 3 catalogues, le catalogue de l'hiver 2011, le catalogue normal et le catalogue spécial poupée Pokémon. Par exemple, la poupée Victini, qui dit nouvelle version Pokémon Global Link, dit aussi nouveaux objets dans le Dream World pour décorer sa maison. Bon, je vous en fais pas toute la liste, mais il y a par exemple, ce qui m'a fait beaucoup rire, tout un kit de douche. Le tapis de douche, la baignoire, le savon, donc voilà. On peut maintenant faire sa toilette dans sa maison du Dream World.
C'est important l'hygiène. Hein.
Ah ouais, surtout sur le Pokémon Global Link, c'est vrai. Sinon, aujourd'hui, info surprise, la nouvelle zone du Dream World a été débloquée. Elle s'appelle la caverne gelée. J'ai pas eu le temps d'y aller moi-même, donc je peux pas vous parler du nouveau mini-jeu. Je n'ai pas non plus vu son design, mais je peux vous dire que vous y rencontrez des Pokémon tels que Chuchmur, Balbuto, Dinoclier, Tarinor, Celeroc. Il y en a certainement d'autres, mais je ne les connais pas. Ça viendra. Hein, les membres sont en train de me donner toutes les infos nécessaires. Et alors surtout, il y a 3 nouvelles baies qu'on peut obtenir et cultiver, la baie du Rhin, la baie Stekpa et une baie qui est très utile, la baie Mepo. Hein, c'est cette baie qui restaure 10 pp. Oui, il y a aussi 2 nouvelles maisons qu'on peut obtenir, donc une cabane perchée et une cabane sur pilotis. Bon, c'est sympa, quoi, mais personnellement, je préfère la maison fusée qui est quand même assez rigolote. En ce qui concerne le Pokémon Global Link, c'est tout pour moi.
Ouais, en effet, je suis sur le site et il est vraiment plus beau qu'avant, quoi. Il y a la carte qui a été toute refaite. On voit les combats, les échanges. Tout est beaucoup plus intuitif, et bien plus ergonomique.
Ouais, c'est ça. C'est ce que moi j'ai employé fonctionnel, mais c'est ça. C'est exactement le mot ergonomique. Ouais.
Voilà, donc oui, je vais commencer ma série de remarques concernant les Pokémon légendaires et aujourd'hui je vais aborder les Pokémon de Kanto, c'est-à-dire Articonin, Elector et Sulfura et dans une moindre mesure Mew et Mewtwo. Alors tout d'abord, Articonin, Elector et Sulfura, le trio des oiseaux légendaires, on les appelle aussi les gardiens du climat, à tort. Pourquoi ? Alors, quand on regarde Kanto, Jartikodin, Lector et Sulfura, il n'y a pas beaucoup de légendes à leur sujet. Ce sont des créatures légendaires, rares, voilà. Oui, on raconte que dans telle montagne vit Jartikodin, à tel endroit vivrait Elector, mais il n'y a aucune vraie légende, du moins dans le jeu, à leur sujet. Donc, ils n'ont, et de plus, ils n'ont aucun pouvoir concernant le climat. Je veux dire, leur capacité spéciale, c'est pression, si j'ai bonne mémoire. Et c'est rien en rapport avec le climat. C'est pas comme, par exemple, Groudon ou Kyorg qui font automatiquement venir le soleil ou la pluie. Ils n'ont aucun pouvoir sur le climat. Pourtant, partout sur internet, on les appelle le trio des oiseaux climatiques. Alors ça, c'est dû à une réaction qui se passe uniquement quand ils sont les trois, un de chaque espèce, présents au même endroit. On le voit dans Pokémon Donjon Mystère 1, on le voit dans le film Pokémon Le Pouvoir est en toi. Quand ces trois Pokémon se trouvent réunis au même endroit, il y a des réactions spéciales qui sont le fait du déséquilibre de leur pouvoir. C'est-à-dire que... on le voit dans Le Pouvoir est en toi, il y en a trois qui se partagent un territoire très petit, ce qui fait qu'ils vont être constamment en conflit. Et quand l'un d'eux n'est plus présent, les deux autres vont se mettre à se disputer la part de territoire du troisième. Et c'est là que, de par leur pouvoir, c'est-à-dire la glace, le feu, etc., ils vont déclencher des catastrophes localement. Mais ils ne contrôlent pas le climat à une grande échelle. Je veux dire, dans Le Pouvoir est en toi, on n'a pas vu des Pokémon venir de l'autre bout du monde, on n'a pas eu de nouvelles de catastrophes climatiques de l'autre bout de la planète. C'était vraiment localement, sur la péninsule des jeux, des premiers jeux, et surtout les quelques îles dans lesquelles ils vivent, où on avait des perturbations du fait qu'ils essayaient de conquérir le territoire du dernier. Donc ce sont des créatures très puissantes, très rares, d'où leur surnom de légendaire, vu qu'ils sont... les scientifiques n'ont pas réussi à les étudier de près, on ne les connaît que par des on-dit, la tradition orale, c'est très difficile de les observer de près, mais ils n'ont aucun pouvoir sur le climat. Alors je sais pas si j'ai été claire, des questions ?
Ouais, alors en fait c'est pas une question, mais plutôt une remarque. Moi je pense que ces Pokémon, du fait ne puissent pas influer sur le climat, ça contribue encore plus à leur aspect légendaire. C'est-à-dire que Kyogre et Groudon ont un aspect légendaire certes, mais qui est beaucoup trop endémique, beaucoup trop ancré dans le scénario, et pas suffisamment, à mon goût, dans la légende. C'est-à-dire que les trois oiseaux légendaires, ils sont tellement légendaires qu'ils influent pas directement sur le scénario du jeu. Il faut vraiment les chercher, et ils sont pas, comment dire, aussi acteurs de l'action.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut aussi remarquer que la plaine de Kanto, dans laquelle ils vivent, est très industrialisée, et on peut aussi considérer que le fait qu'ils n'interagissent pas trop dans le scénario, c'est aussi du fait de la perte des traditions orales. Alors qu'à Johto, il y a les danseuses kimono qui gardent vivantes les traditions orales concernant Ho-Oh et Lugia, ce qui fait que Ho-Oh et Lugia peuvent être un peu plus ancrés dans le scénario vu qu'il y a des gardiens de la tradition orale. Comme à Hoenn, à Sinnoh, il y a encore personne qui garde la tradition orale, il y a encore des ruines, il y a encore des anciens temples. Ce qu'il n'y a plus à Kanto, vu que toute la plaine a été industrialisée et il n'y a plus de traces, plus de ruines, tout a été recouvert par la technologie. En fait, c'est un peu... ils sont plus encore des vestiges de la légende plutôt que des Pokémon légendaires. C'est vraiment des vestiges de légende. On ne se souvient même plus vraiment des légendes qui leur sont associées.
Ah ouais, contrairement à Goudron ou Kyog, qui sont carrément invoqués par les équipes Plasma et Magma. Plasma et Magma. Aqua, la team Magma et la team Magma. Et la team Aqua. Oh, je mélange. Voilà, contrairement à ces deux-là qui sont invoqués et qui sont ils sont pas oubliés, ils sont là pour changer les choses, tandis que eux, les trois oiseaux, ils sont en effet en marge du monde, et ils sont comme adaptés et cachés suite à l'évolution du monde. Et je pense que le Pokémon qui est le plus représentatif d'industrialisation, c'est Elector, parce qu'il se colle à la centrale on le trouve à la centrale, quoi, à côté d'une centrale électrique, tandis que les autres sont cachés.
Voilà, en fait, Elector s'est carrément adapté à la vie moderne, alors que les deux autres, ils sont allés faire la gueule au sommet d'une montagne ou au fond d'une caverne. Donc on peut considérer que Elector, c'est le plus adaptable des trois oiseaux légendaires de Kanto.
Ouais, mais le plus beau, ça reste Articodin.
Ah non, Sulfura.
Les goûts et les couleurs, hein.
Donc alors, Mew et Mewtwo sont des cas un petit peu à part, parce que Mew a été importé d'Amérique du Sud. Donc on le voit dans la partie du premier film Pokémon qui a été révélé, qu'on n'a pas vu en France. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Japon, mais on ne l'a pas vu en France. Mew vient d'Amérique du Sud. Il me semble que c'est dit dans le jeu, dans les cahiers qu'on trouve au manoir Céladon, Mew vient d'Amérique du Sud.
Mais je crois qu'on le dit dans le film.
Je suis pas sûr.
On ne le dit pas directement.
Si je me souviens, c'était dans un temple style Maya ou...
Oui, oui, c'est ce qu'on voit dans le film, mais c'est les 10-15 minutes qui ont été squeezées pour la version française.
Non, pas forcément. En fait, il y avait bien la naissance de Mewtwo, mais on a des séquences en français qui viennent de là aussi.
Enfin, c'est pas dit clairement que ça vient d'Amérique, ça vient d'une exotique, lointaine, et c'est dans la jungle, avec des motifs Maya, Aztec, enfin, qui ressemblent à Maya ou Aztec.
Il me semble que dans le jeu, c'est dit qu'il vient d'Amérique du Sud.
Oui, et on dit qu'il est né en février, non?
Non, Mewtwo est né le 6 février dans le jeu.
Oui, bah je disais Mewtwo.
Ah oui, bon, pardon. J'avais...
Je retrouve ma vieille carte de version bleue pour savoir... Parce que maintenant, tu me mets le doute, là, si c'est vraiment évoqué que c'est Amérique du Sud, j'en suis pas certain.
Donc, Mew est une créature assez rare, mais qui vient d'Amérique du Sud, donc il n'est préconnu dans la plaine de Kanto. Il a été ramené par des scientifiques, pour des expéditions scientifiques. On le voit dans le jeu tout comme dans le film. Et ce qui fait que le public ne connaît pas vraiment Mew. Et Mew est même lui-même très peu connu des scientifiques, vu que les scientifiques eux-mêmes n'ont pu que très peu l'observer. Donc on a beaucoup de rumeurs au sujet de Mew, mais c'est des rumeurs qui sont plutôt du genre légende moderne, légende contemporaine, ce qu'on appelle aussi les légendes urbaines. Un peu comme actuellement, on raconte un peu tout et n'importe quoi sur l'aspartame, sur ci, sur ça, parce qu'il y a des études qui se contredisent, parce que les scientifiques n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, il y a des études qui se contredisent, le public comprend à moitié, comprend mal, il y a des études qui sont cachées, il y a des délais pour la publication des résultats d'études. Ce qui fait que Mew est un Pokémon légendaire plutôt moderne. Donc c'est une légende urbaine basée sur une créature qui est assez rare et qui vient d'une contrée lointaine. Et Mewtwo est un peu du même genre, mais encore plus dans le monde de Kanto, il fait presque office de creepypasta, de légende urbaine faite exprès pour faire peur. Il est très peu aperçu, sa naissance a résulté de la destruction du laboratoire d'où il vient. Et c'est vraiment des légendes contemporaines. Il n'y a pas à leur chercher un sens dans le déroulement du monde comme Arceus ou d'autres Pokémon qui font encore partie d'un culte ancien. Non, non, c'est vraiment des légendes modernes, contemporaines, tirées de données scientifiques à moitié comprises, à moitié publiées, pas très bien reçues. Et c'est vraiment le type même de la légende urbaine contemporaine.
Par rapport à Mew, donc tu dis qu'il est issu de la culture légende urbaine, on va dire.
Enfin, un peu comme ce qu'on raconte au sujet de l'aspartame ou ce genre de choses, étudiées par les scientifiques, et le public en a entendu parler comme ça.
D'accord, donc en fait c'est une légende urbaine de Kanto, et pour explorer cette légende urbaine, le méchant Giovanni, dans l'animé, enfin dans le jeu, c'est pas clairement dit que c'est Giovanni qui a fait l'expérience, si je me rappelle bien, envoie une expérience.
Non, il n'est pas cité dans le jeu.
Ouais, donc ma question est, du fait que le Pokémon Mew est localisé en Amérique du Sud, est-ce qu'on peut faire un lien entre Mew et les légendes réelles comme le Quetzalcoatl?
Ah non, le Quetzalcoatl, quand on regarde ce qui a inspiré les Pokémon par rapport aux légendes, le Quetzalcoatl a plutôt inspiré Rayquaza, en partie.
Ah d'accord, le grand serpent à plumes volant. D'accord. Ensuite, j'avais une autre question, mais elle vient de s'estomper dans mon esprit, donc j'essaie de m'en rappeler. Par rapport à Mewtwo, Mewtwo, tu dis que c'est une légende urbaine aussi ?
Oui, urbaine, contemporaine, plutôt du type creepypasta. C'est-à-dire que Mew, ce serait plutôt du genre ce qu'on raconte au sujet de l'aspartame, c'est bien pour les femmes enceintes, c'est pas bien, ceci, cela, vu qu'il y a eu des études scientifiques, mais qui n'ont pas pu être approfondies. Alors que Mewtwo, c'est plutôt du genre, oui, j'ai entreaperçu tel truc, on raconte qu'il s'est passé telle chose, mais il n'y a rien qui est certain, il n'y a aucune communication, vu qu'il a... Il n'y a pu avoir aucune communication, vu qu'il a détruit le laboratoire tout de suite, on s'échappe.
Ah d'accord. Donc en fait, la légende de Mewtwo, de la manière dont tu l'as écrite, c'est-à-dire en légende urbaine, commence après la destruction du laboratoire, donc entre la destruction du labo et sa découverte par le héros du jeu. Les indices qui mènent à Mewtwo sont issus de la culture légende urbaine.
Voilà, et plutôt par exemple de personnes qui auraient pu entreapercevoir Mewtwo s'enfuir du laboratoire à Celadon ou l'apercevoir dans la rue, quelque part, et des gens qui auraient fait le lien. Donc vraiment des choses entreaperçues et qui circulent de bouche à oreille, qui sont déformées.
Est-ce que tu penses que... Bon, j'extrapole un peu le sujet. Est-ce que tu penses que, vu que dans l'animé, je sais pas si tu as vu cet épisode où on voit Sacha qui aperçoit Mewtwo qui fait exploser un laboratoire et qui s'enfuit comme un météore. Est-ce que le parallèle jeu...
Ah oui, non, mais... ça dans l'animé, c'est quand il s'enfuit de... C'est l'épisode où il s'enfuit de la reine de Giovanni.
De la reine de Jadiel, ouais.
Et c'est juste avant que Giovanni se barre de l'arène et où il se retrouve à se battre contre la Team Rocket Jesse et James pour gagner le badge. C'était un peu tiré par les cheveux, c'était un peu dommage cet épisode.
Ouais, voilà.
Ce n'est pas la reine, c'est le quartier général de la Team Rocket qui a été reconstruite après.
Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est à côté. Mais
ma
question n'est pas la reine, mais en fait, du fait que dans l'animé, Mewtwo s'échappe et est aperçu par Sacha, et que dans le jeu, Mewtwo, on le voit pas, mais on doit suivre suivant les PNJ.
Dans le jeu, il a aussi été entreaperçu par les personnes de Azuria, vu qu'il y a une personne devant la cave dans laquelle il s'est enfermé qui dissuade les gens d'entrer. Donc on sait qu'il y a quelque chose dans cette cave, mais on ne sait pas trop quoi, et on dissuade les gens d'entrer, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est aussi ça qui attire le joueur à l'intérieur de cette cave, donc il est entreaperçu à différents moments, aussi au moment où il s'enferme dans la caverne azurée, et où on suppose qu'il terrorise les habitants, vu qu'il y a un garde spécialement posé devant pour dire « Ah non, tu peux pas rentrer, t'as pas tes 8 badges. »
Ouais, et genre le garde, il va empêcher Mewtwo de sortir. Enfin bon...
Mais c'est vrai.
Et en plus, il a beaucoup de cheveux parce qu'il est juste devant le trou de la grotte et on dirait qu'il a une coupe afro.
Oui, c'est vrai. Les cavernes te font des coupes afro depuis le premier jeu Pokémon.
Ma question vient de me revenir. Tout a une version légendaire tururbaine différente de l'animé et dans le jeu. Laquelle doit être le plus suivie ? Est-ce que c'est celle du jeu ou plus celle de l'animé ?
Ben, on peut considérer les deux. Je veux dire, il est entreaperçu et après, ce que les gens font, comment est-ce qu'ils le détournent. Après, c'est aussi le problème des différentes histoires du canon, parce que si tu regardes l'histoire de Mewtwo entre l'animé, le jeu et le comique, enfin le manga, c'est trois différent. Histoires complètement différentes. Il y a aucune qui est juste, il y a aucune qui est fausse et elles ont toutes. Ça c'est le problème quand tu as trois canons différents, c'est que tu ne peux... T'es censé les prendre tous les trois en même temps et Mewtwo ne peut pas avoir vécu trois histoires différentes, à moins qu'on considère qu'il y ait trois univers parallèles Pokémon, mais là ça devient un truc complètement impossible à résoudre en Pokémon, enfin, s'il vous plaît.
Bah, on peut dire quand même que le manga c'est un peu le melting point de l'anime et du jeu. Donc au début c'est vraiment tiré du jeu, et par la suite lorsqu'on regarde le manga de Verfeuille Rouge Feu, en fait le Mewtwo il ressemble trait pour trait au Mewtwo de Sacha. Donc c'est à dire que... Au début, bon, il fait sa mutation, etc., il ne sait même pas parler. Et ensuite, lorsqu'il découvre qu'en fait, Red, c'est le frère de Deoxys, il aide un peu Red dans sa recherche d'identité. Il se dit que, oui, lui aussi, c'est un clone de Mewtwo, voilà, mais il a quand même sa place dans ce monde, etc., etc. Donc, c'est ça, le truc.
Mewtwo, c'est pas le clone de Mew ?
Ben, si.
Si.
Enfin, son clone ou son enfant, on ne sait pas trop, ça dépend si on considère le jeu ou le manga et l'animé.
Bah, à aucun moment on dit que Mew est l'enfant de Mewtwo. Enfin, l'inverse.
Non, l'inverse. Mewtwo est le fils de Mew, parce que si tu regardes dans le jeu, dans les notes que tu vois à Céladon, au manoir Céladon, tu as Mew qui est enceinte et qui accouche de Mewtwo.
T'es sérieuse ou ça ?
Manoir Céladon. Dans les notes que tu lis au manoir Céladon.
J'irai
oui,
voir.
T'as jamais lu les papiers posés sur la table ?
Il y a les statues aussi.
Ah, peut-être que les statues. Faut que je vois ça.
Mais c'est comme ça aussi qu'on sait que Mewtwo est né un 6 février.
Ouais, mais ça c'est au manoir de Fuji.
Au manoir Céladon, sur la Cramoisille.
Cramoisille.
C'est le manoir Pokémon.
Le manoir de Cramoisille, on va dire.
Le manoir Pokémon à Cramoisille. Ce truc machin où tu peux capturer des ponytas dedans.
Et ben il est super creepy.
Et dedans, tu as des notes où ils te disent que Mew est enceinte et qu'elle accouche de Mewtwo un 6 février. Donc... Il existe une espèce de Pokémon qui peut accoucher et qui ne pond pas des œufs. Une espèce et c'est Mew. Tous les autres y pondent des œufs, sauf Mew.
Et si c'était une mauvaise erreur de traduction du jeu japonais vers la version française et qu'en fait le sens ce serait plutôt que Mew a donné vie à Mewtwo, mais pas dans le sens pondre, mais plutôt dans le sens d'un clonage ou comme dans l'animé quoi.
Ah c'est possible que ce soit une mauvaise traduction. Parce que to give birth to ne veut pas forcément dire accoucher en français. Ça peut aussi pouvoir dire donner naissance à, être à l'origine de.
Ouais, ce serait plus. Moi je pense que ce serait plus dans ce sens-là.
Ah, c'est possible.
Et Mew, c'est pas le premier Pokémon mais...
Bah non, justement, ça c'est. On ne sait. Une espèce contemporaine d'une autre ne veut pas être son ancêtre. Dire que l'homme descend du singe, c'est faux. L'homme et le singe ont un ancêtre commun, mais l'un ne descend pas de l'autre vu que les deux sont des espèces qui vivent à la même époque. Mew étant une espèce contemporaine, Mew ne peut pas être l'ancêtre de tous les Pokémon.
En fait, je pense que pour Mew, il y a deux... on peut dire qu'il y a comme deux légendes. La première légende, c'est la légende de la paternité avec ses gènes, etc. Et la deuxième, c'est la légende contemporaine avec laquelle, sur laquelle est tramée l'histoire, quoi.
Sur Mew, c'est comme pour l'aspartame, on ne sait pas, vu que le peu d'études qui a été faites ne permettent pas de conclure quelque chose, vu qu'elles n'ont pas été suffisamment approfondies. Donc certes, Mew a des gènes qui ressemblent à ceux de tous les autres Pokémon, mais après, le reste, on ne sait pas trop. Alors, est-ce que c'est l'espèce de base, l'espèce Pokémon de base, et que tous les autres sont seulement des Mew transformés en utilisant Morphing et qui ont oublié quelle est leur forme originale de Mew? Est-ce que Mew est simplement une espèce comme une autre et que les scientifiques se sont un peu ratés quand ils ont dit que il a tous les gènes de tous les Pokémon, et que c'est un peu une mauvaise interprétation des gens qui ont eu des rapports concernant Mew? On ne sait pas, c'est une espèce qui ne peut pas être étudiée, qui est beaucoup trop rare pour pouvoir être étudiée. Tout ce qu'on a, c'est des bribes d'informations.
Alors, je t'interromps, j'ai trouvé le journal du Manor Pokémon en japonais. Il y a bel et bien écrit que Mew a fait un œuf et qu'il a donné la vie à un enfant.
Donc c'était un œuf?
Bah oui, je vois là, un œuf.
Alors donc ça, c'est un œuf. Donc c'est une mauvaise traduction quand on dit que Mew a accouché. Révélation.
C'est très bizarre.
Attention, parce que c'est une exclusivité Pokébip.
Ouais, et revenir au lien de paternité, d'un point de vue strictement in-game, je pense que le lien de paternité était fait à partir des attaques, du fait que ce Pokémon-là est le seul qui puisse apprendre toutes les attaques, c'était CS.
Il suffit de pas grand-chose pour que les gens se mettent à raconter « C'est l'ancêtre de tous les Pokémon !»
Enfin, moi j'y ai cru, que Molly Crew a terminé sa chronique. On peut passer à Ptirt, qui cette fois-ci ne parlera pas d'anime.
Eh ben non, vous n'aurez pas de l'anime cette fois. Vous n'avez pas été très gentil. Alors, cette fois, je vais parler d'un truc un peu spécial que normalement à peu près tout le monde connaît. Il s'agit des Nuzlocke. Alors, est-ce que dans l'assemblée, quelqu'un ne connaît pas ou ne sait pas ce qu'est une Nuzlocke?
Oui, je ne sais pas ce que c'est.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un Nuzlocke, oui. Tirt? Éclaire ma lanterne.
Moi, je ne sais pas très bien, donc je veux bien tes explications.
Ok, alors c'est parti pour l'explication du professeur Ptirt. Alors, vous allez bien écouter, vous ouvrez vos cahiers à la page 25 et vous lisez en même temps que moi. Alors, les Nuzlocke, c'est un challenge qui est destiné à rendre le jeu Pokémon un peu plus hard, j'ai envie de dire, en s'imposant des règles super dures, et de ce fait, on a un jeu qui est bien plus dur. Et finalement, on retrouve un peu une sensation de challenge, et le jeu nous résiste un petit peu, etc. Et on retrouve beaucoup d'émotions. Alors, en quoi consiste vraiment ce Nuzlocke Challenge? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Nuzlocke, en fait, ça vient d'une fan-comic qui a été créée par un type sur 4chan qui s'appelle Nuzlocke. Il avait fait un gribouillis qui ressemblait à une comic, où il faisait une aventure sur Pokémon Ruby et Saphir, où il s'imposait une règle, et ces deux règles vont devenir capitales. C'est 1. Les Pokémon morts au combat sont des Pokémon morts définitivement. Et la deuxième, c'est ne capturer qu'un seul Pokémon par zone. Donc si jamais on tombe sur un Pokémon, le premier de la zone, on le capture, et après on ne peut plus en capturer d'autres, c'est interdit. Donc si jamais le premier Pokémon de la zone c'est Taratata, bah pas de choix, il va falloir le capturer et le garder avec soi jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à ce qu'il meure. Et il est interdit d'attraper d'autres Pokémon de la même zone. Alors, c'est un type sur 4chan qui a publié une comic avec sa partie où il se mettait ces règles-là. Et alors, ça devenait tellement intéressant comme comic et comme concept que finalement, il y a tout le monde qui a aujourd'hui devenu un phénomène très célèbre. Alors, ça s'appelle Nuzlocke parce qu'en fait, le héros de la fan comic avait un Greenipio qui a évolué par après en Nuzleaf en anglais. Et
Pifeuille.
Oui, Pifeuille et Greenipio. Et alors, ce Pifeuille, en fait, il avait une manie, c'est d'avoir la tête de John Locke de la série Lost. Et il n'arrête pas de dire des phrases cultes, et donc on a mis ça comme Nuzlocke. Alors, le concept a été repris par de nombreux fans, et les règles restent les mêmes, donc c'est-à-dire attraper un seul Pokémon d'une seule zone et interdit de capturer ensuite, et tous les Pokémon KO au combat sont morts. Et on ajoute à ça une règle qui est quand même obligatoire, c'est donner des surnoms aux Pokémon. Comme ça, on s'attache beaucoup plus à eux et du coup, ça devient terrible pour les morts, etc.
Il n'y avait pas aussi une règle concernant le soin des restrictions pour les soins des Pokémon ?
Ça, c'est toi qui veux. Enfin, c'est toi qui vois. Les deux règles générales, ce sont donc mort et capture. Mais après, tu peux avoir des variantes. On devient peut-être plus proche d'eux et alors on a vraiment peur de tout ce qui pourrait leur arriver. Donc, si jamais un Pokémon est KO, une seule fois en combat, c'est fini, on ne peut plus rien faire avec lui, on est obligé de le mettre au PC et de le garder jusqu'à la fin dans le PC, voire même le relâcher pour les plus d'âme dans le cœur, j'ai envie de dire. Pas pour ceux qui n'ont pas un cœur trop faible. Et alors, de ce fait, la comique devient parfois très très émouvante, des fois même c'est insupportable, on est en train de pleurer, etc. Et on se dit qu'en fait, la personne qui a tué le Pokémon, bah c'est le plus beau bâtard de toute la Terre. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, de cette Nuzlocke qui est devenue célèbre a découlé plusieurs autres fan-comics, notamment la comique de, par exemple, Landwalker, Nuzlocke, il y a Petty, il y a Umbriel, Hal, Kinnin. Et je dirais que l'une qui s'est le plus répandue, c'est celle de Petty, notamment grâce à un Pokémon, c'est un électrode qui s'appelle Rick, et qui a la faculté de pouvoir faire de la musique avec un dispositif qu'il a dans le corps. Et en fait, sa mort à ce Pokémon a tellement touché les gens qu'en fait, la fan comique de Petty est devenue très très célèbre.
J'ai entendu parler d'une variante du Nuzlocke, si jamais ça intéresse quelqu'un. Alors, j'ai trouvé ça sur Mimebase, sur je crois que ça s'appelle Pokémime, la section spéciale Pokémon, et c'est un Nuzlocke créationniste. Ça se base sur beaucoup de principes de la chrétienté. Donc, interdiction de faire évoluer les Pokémon, interdiction de posséder un Pokémon spectre, ténèbres, ou d'utiliser des attaques de type spectre ou ténèbres, interdiction d'avoir un Pokémon de forme serpentiforme, se tenir le plus loin possible de tout ce qui est laboratoire et personnes scientifiques, faut détruire tous les Pokémon légendaires, surtout pas les capturer. Sinon, il y a aussi la version Nuzlocke tourne-grain, c'est-à-dire il faut utiliser un action replay pour, dès qu'on peut capturer des Pokémon, capturer que des tourne-grain, ne pas les faire évoluer et faire tout le jeu avec que des tourne-grain.
Ouais, c'est une des nombreuses variantes. Bah, ouais, en fait, globalement, il faut juste les trois règles principales et après on peut se faire des espèces de variantes comme ça pour rendre le jeu très très dur. C'est un peu comme chacun l'entend. Les moments deviennent plus intenses, on a peur des champions d'arène, en général des dresseurs très forts, on a peur du poison, parce que voilà, le poison est un des premiers facteurs de chaotisme du jeu. On a peur des coups critiques aussi, qui font des OHKO parfois. On a peur surtout des autodestructions. Là, c'est une perle, hein. Il y a toujours un montagnard ou un dresseur comme ça qui a un gravalanche et qui est prêt à le faire auto-exploser pour nous tuer et tuer son Pokémon aussi. Les privilèges destin aussi. C'est une perle, ça, cette attaque. Bah, sinon, je dirais que le Nuzlocke, c'est quand même une bonne partie, enfin, un moyen de bien jouer et un moyen de ressentir beaucoup d'émotions fortes. Surtout quand on écrit la date de mort du Pokémon, les niveaux où il a vécu, etc. Il faut vraiment avoir, je dirais, un cœur très fort pour savoir faire des Nuzlocke jusqu'au bout.
C'est carrément vivre comme si les Pokémon étaient vrais, quoi.
Bah oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'à travers ça, en fait, on s'attache réellement à quelque chose qui n'est peut-être pas vraiment réel, mais au fond, je dirais, dans notre cœur, c'est comme si c'était réel.
J'ai aussi un autre Nuzlocke en tête que j'avais aussi lu sur Mimebase, si ça intéresse quelqu'un. Bah, c'est le Nuzlocke de N.
Ah ouais,
en fait, c'est dans Pokémon Noir et Blanc. On remarque que N, à chaque rencontre qu'on fait avec lui, il a une autre équipe et qu'elle constitue des Pokémon qui sont présents dans la zone, dans les environs de là où on le rencontre. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire un match important, comme se battre contre le rival ou battre un champion d'arène, une fois qu'on a battu le rival, le champion d'arène, etc., il faut relâcher toute son équipe et en recapturer une autre. Dans la zone où on se trouve, où on a rencontré le rival, le champion d'arène, etc.
Ça, faudrait essayer, mais il faut vraiment avoir déjà de la patience, parce que faire augmenter les Pokémon jusqu'au niveau requis pour affronter le champion ou quoi, c'est très très chaud. Et émotionnellement, c'est peut-être aussi dur.
Ouais, tu te rends compte, tu montes ton niveau au niveau 100 et après il meurt et du coup tu dois tout recommencer, ça. J'accepterai pas ça, franchement, je pense pas que je vais faire des Nuzlocke.
Bah ça c'est vrai, franchement on dirait pas comme ça, mais en fait on s'y attache beaucoup aux Pokémon. Est-ce que quelqu'un compte faire ça sur Pokémon Noir et Blanc 2 ?
Une news c'est comme bien ça. Trop dur. Moi, je m'y risquerais pas. Hein.
Moi non plus.
Bah, c'est vrai que le jeu est bien plus dur que ce qu'on pourrait penser.
Je ferais pas ça, parce que si en plus tu perds ton légendaire ou je sais pas quoi...
La légendaire, en général, il faut les tuer.
Ok.
Ce sera le mot de la fin.
Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens qui ont commencé Pokémon Black and White 2, qu'ils pensent du jeu.
Cool.
Oui, je vais rejoindre Dragi, c'est trop cool. Le rival aussi, il est trop cool. Et surtout, il faut le snobber tout le temps.
Non, mais j'ai l'impression que c'est un peureux, le rival.
Ben, il est pas peureux, mais j'ai un peu l'impression qu'en fait, il veut tout le temps devenir fort, mais il sait pas très bien pourquoi lui-même. Enfin, il dit que c'est pour vaincre la Team Plasma.
Mais je sais pas, on dirait qu'il refourgue tous les tâches pas bien à nous et on doit tout faire. Je sais pas.
Ouais,
mais il est moins offensif que dans les autres versions. Hein. Il y a beaucoup moins de combats contre le rival. Il est moins présent, je trouve.
Bah, tant mieux, parce que dans Noir et Blanc, la première version, tous les trois points tombent sur Bianca, Chiren et compagnie, punaise. Enfin, bah, c'est un peu pénible, je trouvais. Tu fais trois pas. Ah, tiens, salut Chiren! Ah oui, on va encore se friter, mais j'aimerais bien avancer, mais bon... Ah tiens, salut Bianca, non pas toi. Ah si, toi aussi.
Mais bon, le jeu réserve quand même de belles surprises, il y a de belles nouveautés. Bon, on va pas les spoiler maintenant, parce que ça ferait rager certains, mais je pense que c'est un jeu très intéressant. C'est vraiment... Il y a vraiment des nouveautés, c'est vraiment une suite avec des nouveautés.
J'ai un gros spoil pour Noir 2, Blanc 2. Attention,
non,
accrochez-vous.
Non.
Il y aura des Pokémon dans ce jeu.
Mais pourquoi ouais. Tu l'as dit ? Pourquoi ?
Oh, ce spoil.
J'avais envie de tous vous spoiler dans Pokémon Noir 2, Blanc 2. Il y a des Pokémon. Et voilà, maintenant vous le savez, c'est plus la peine d'y jouer.
Non.
Tu croyais qu'il y avait des Power Rangers, c'est ça ?
Bah oui.
Note qu'il y en a un, il y a bien Scalpion et Scalproa, donc bon... Enfin bref, moi mon avis c'est que scénaristiquement le jeu est beaucoup plus développé que ses prédécesseurs. Tu vois quand tu joues aux yeux déjà que les dialogues, il y en a beaucoup, donc tu vois qu'il y a déjà un bon scénario. Je trouve que c'est mieux au niveau scénaristique, qu'il y a un effort en tout cas.
C'est plus enrichissant que les versions platine, cristal ou émeraude.
Mais surtout on n'est pas lâché dans la nature comme ça. Bah, par exemple, dans Platine, etc., dès qu'il y a un événement qui est fini, les personnages ils s'en vont tous et il faut qu'on se débrouille, nous. Bah, ici, on est vraiment suivi pas à pas et on sait vraiment ce qu'il faut faire.
Ouais, mais d'un autre côté, moi j'aimais bien, c'était comme un défi pour moi de me débrouiller toute seule. Alors que là, je trouve qu'on est un peu trop encadré, justement. Après, c'est une question de goût, hein.
Oui, en même temps, tu joues la version japonaise, donc bon, t'as un peu de quand même te débrouiller tout seul au final. Hein.
Oui, d'accord, dans la version Jap, mais là, par exemple, dans Noir et Blanc 1, je trouvais qu'on était vraiment beaucoup assisté. On n'avait pas à chercher beaucoup soi-même. Et moi, ce qui me plaisait dans les tout premiers opus, c'était justement d'enquêter, de retourner sur mes pas, de chercher ce que j'avais loupé, enfin voilà.
Dans Noir et Blanc 1, ce que j'ai beaucoup regretté, enfin, je me suis arrêtée vers la moitié du jeu dans la cave électrique parce que ça me tuait. Les donjons, même les donjons sont linéaires, on peut pas se tromper, on va tout droit.
Oui, c'est ça, c'est une forme d'assistana. Hein.
C'est, on suit le scénario, on suit un rail, et ça, c'est vraiment pénible, ça donne pas envie de jouer au jeu. On sait même plus pourquoi on est là. On pourrait limite poser la console, et puis le jeu, il joue tout seul, puisque de toute façon, il suffit de suivre le rail. La console, elle peut suivre un script toute seule, y a pas de problème. Enfin, c'est un peu l'impression que j'avais en jouant à Noir 1, Blanc 1, et je suis contente d'apprendre que dans Noir 2, Blanc 2, ils ont un petit peu changé ça, et peut-être un peu moins pris par la main, mais tout en étant encadré scénaristiquement. Mais sans être un peu moins linéaire, enfin d'après ce que j'ai compris.
Bah ça commence déjà dès le début. Il y a un moment en fait, vers le début, il faut retourner quelque part et puis il y a rien qui t'explique qu'il faut retourner là d'où tu viens. Et en plus, c'est le dernier endroit où tu penseras aller. C'est notamment pour trouver Chiren. C'est le dernier endroit où j'irai en fait, pour le trouver.
Ah t'étais aussi bloquée à ce moment-là ?
Bah je sais pas, je me demandais ce qu'il fallait faire et puis j'ai un peu pensé à ce qu'on a fait avec... Avec quelqu'un. Après, ben, je suis trouvée.
Moi, c'était parce qu'un personnage me bloquait la route, mais après, je me suis dit, mais.
Ah oui,
j'ai peut-être oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Oui, le stupide montagneur qui te bloque.
Oui, voilà. Sinon, graphiquement, comme dans Noir et Blanc 1. Sinon, elle a quelques petites animations que je trouve bien sympathiques, comme quand Bjork nous donne les Pokémon, les premiers Pokémon.
Oui, elle est animée en 3D, c'est plutôt beau, je trouve.
Ça a vraiment très mignon. Et je sais pas si c'est le cas dans le premier, mais là, tous les dresseurs qui s'animent maintenant.
Oui, tous. Bah, dans le premier, il n'y avait pas.
C'était seulement les champions et les personnages principaux. Comment j'allais dire, sinon l'interface de combat a changé de design. Même chose pour la Ségir.
Ah, l'interface de combat a changé de design, ça veut dire qu'on a plus cette horrible soupe de pixels avec ses zooms et ses dézooms?
Bah, à peu près, c'est juste que c'est plus confortable, quoi. Car le jeu est vraiment très très bien, je trouve. Ils ont vraiment innové les choses, notamment le Pokéwood. En fait, ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air simple, mais en fait, c'est super compliqué. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur avec un truc pareil.
Et bah, ça va nous changer du truc comédie musicale, machin chose, qui, quand j'ai mis les pieds, j'ai eu une seule envie, c'est sortir.
Sinon, qu'est-ce que vous pensez de la Ségir? Parce que moi, je la trouve pas très belle, la nouvelle interface.
Je crois que c'est une question d'habitude. On va s'habituer aux nouvelles interfaces, de tout ce qu'il y a. Et après, on n'y pensera même plus. On est tellement habitué au Ségir de la version 1 que c'est vrai que, bon... Mais le truc rose qu'on avait au début, voilà, bof.
On a encore un...
Oui, mais bon, après, ça change. Je trouve que c'est un peu mieux. Et il y a aussi l'organisation dans le sac qui change. Hein. On peut gérer le classement de ses objets. Bon, il y a pas mal de choses quand même qui ont été améliorées et que je trouve sympa.
Ouais, je crois qu'on pouvait le faire au premier, non ?
Oui, mais pas autant que sur le 2. Là, sur le 2, c'est encore plus poussé. On peut choisir le type de classement par ordre alphabétique ou par type. Par exemple, pour les CT et les CS, on peut les classer par type ou bien par ordre alphabétique. Enfin, il y a pas mal de choses, ouais.
Et selon moi, la meilleure innovation, c'est quand même le repousse.
Ben, j'allais le dire.
C'est-à-dire le repousse, tu en mets un et quand il n'y en a plus, ben, on te propose directement d'en remettre. Et c'est mieux que de tout le temps aller dans le sac et en reprendre un, et après tu recommences, et puis tu vas encore dans le sac, et c'est très très chiant.
Non, je pense que niveau histoire, on va rien dire, puisque...
Non, excepté qu'il est super.
De toute façon, j'ai déjà spoilé tout le monde en disant qu'il y avait des Pokémon dans le jeu, donc c'est plus la peine de raconter.
En tout cas, la seule chose qu'on peut dire sans spoiler, c'est que le scénario, il est plein de surprises, et que c'est impossible de savoir exactement ce qu'on va faire. Impossible.
On peut aussi dire que le jeu devrait arriver d'ici à fin de l'année en français et en Europe.
D'après toi, c'est quelle date à peu près?
Je pense qu'on peut l'attendre pour septembre, octobre ou novembre.
Okay, septembre, je sais pas. J'ai oublié de vous dire dans les news, mais on a un nouveau jeu qui a été annoncé pour le mois de septembre. Il s'agit de...
Ah,
Pokémon à la conquête du clavier.
Voilà.
Oh là là, oh. Ça c'est un truc, c'est vraiment un coup de marketing, hein. Franchement, rien de plus.
Franchement, Black and White 2, avec la sortie en plus de Pokémon Typing, là, je le vois pas avant fin octobre, voire même début décembre.
Pour Noël, quoi.
Oui, ce sera pour Noël.
C'est quoi ce machin?
T'as un clavier et tu dois taper au plus vite le nom du Pokémon que tu vois à l'écran.
Ouais, comme ça tu t'accoutumes avec un clavier.
Tu apprends la dactylo à partir d'un jeu vidéo Pokémon et c'est pour les gens, alors c'est pas forcément adressé aux plus jeunes, mais au Japon c'était aussi pour apprendre les caractères littéraires, je sais pas comment on les appelle, du Japon, du japonais, et donc c'était éducatif et pédagogique. Ici en France, à part apprendre à taper à 5 doigts plutôt que 2,
c'est déjà pas mal.
Oui, mais enfin bon, on va pas acheter une cartouche de jeu exprès pour ça, voilà.
Je n'aurai qu'un mot.
En plus, le clavier, il va servir à quoi d'autre qu'à ce jeu?
À rien. À rien.
À rien. À rien.
Est-ce qu'il est Bluetooth?
Oui, il est Bluetooth, justement.
Donc, il peut se servir sur iPad ou des trucs comme ça?
Je sais pas, il me semble que j'ai vu qu'il serait pas compatible qu'avec la DS.
Peut-être la Wii U.
Enfin, qu'ils annoncent Pokémon, le truc du clavier, et pas Pokémon Conquest, quoi. Ça me déçoit quand même beaucoup.
Ouais, et puis il l'annonce tardivement parce que Pokémon Typing il est sorti il y a un moment au Japon.
Marketing quand tu nous tiens.
Je sais pas s'il y a vraiment un an, mais je sais que j'ai fait le dossier il y a une paire de mois, ça c'est clair, ouais.
Cet été, si vous vous ennuyez et que vous aimez les Pokémon, à la Japan Expo, vous aurez une distribution mystère par Nintendo. Que au Japon, le 14, le film 15 va sortir. Que à Hawaï, le 10 et le 12 août, il y aura un tournoi.
Du 10 au 12.
Les 10 et 12 ou 10 au 12 ?
Au 12.
10 au 12, donc 10, 11, 12 tournois à Kona à Hawaï. Et tout ça pour nous faire patienter jusqu'à l'automne en espérant avoir le radar RA Pokémon et le Pokédex 3D Pro.
Bon, je pense qu'on a tout dit sur l'actualité Pokémon.
Ouais, et... je pense qu'on peut enchaîner sur l'actualité à venir.
Dans un prochain Pokémon Radio Show, je pense que les auditeurs ont eu pas mal d'heures pour le podcast. Je pense qu'on peut finir ce Pokémon Radio Show numéro 6. Bye bye tout le monde.
Salut.
À bientôt.
À bientôt.
Ouais, et je promets de faire de meilleures blagues. Parce que cette fois, j'ai rien fait comme taux de blague. Et du coup, ce PRS, il sera moins bien. À plus !